Chapitre 59. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, José Luis Machado. Je suis heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus A320 à destination de Manaus. Notre temps de vol est aujourd'hui estimé à 4h15. L'embarquement est à présent terminé. Initialement prévu à 22h38, notre décollage sera différé d'une trentaine de minutes en raison d'un... Nicky soupira et regarda à travers le hublot. En prévision des prochaines compétitions sportives internationales, le terminal réservé aux vols domestiques était en plein travaux. Sur la piste, une dizaine de gros porteurs au roulage faisaient la queue sur les taxiways en attendant un créneau de décollage. Mu par un réflexe pavlovien, Nikki ferma les yeux et chaussa ses écouteurs. C'était la troisième fois qu'elle prenait l'avion en 3 jours, et, loin de refluer, son angoisse montait d'un cran à chaque voyage. Elle augmenta le volume du baladeur pour se laisser envahir par la musique. Un chaos effrayant régnait dans son esprit. Sous le coup de l'épuisement physique et mental, son cerveau était assailli d'images et de sensations qui se télescopaient. Le souvenir encore à vif de sa brève étreinte avec Sébastien, le danger inconnu qui planait sur leurs enfants, la crainte de ce qui les attendait en Amazonie. Alors que l'avion tardait à décoller, Nikki ouvrit les yeux, troublée par la musique qui déferlait dans son casque. Elle connaissait ce morceau, un cocktail d'électro et de hip-hop brésilien. C'était la musique qu'elle avait entendue dans la favela, le baile funk carioca qui s'échappait des fenêtres, de la musique brésilienne. Elle fit défiler les titres, un patchwork de samba, de bossa, des remixes de reggae, des titres rappés en portugais. Cet iPod n'était pas celui de son fils. Pourquoi ne l'avait-elle pas remarqué avant? Excitée, elle retira ses écouteurs et utilisa la molette cliquable pour naviguer dans les dossiers que contenait l'appareil. Musique, vidéo, photos, jeux, contacts. Rien de notable. Jusqu'à ce qu'elle ouvre un dernier dossier contenant un fichier PDF assez volumineux. « Je crois que j'ai découvert quelque chose », dit-elle en montrant sa trouvaille à Sébastien. Il regarda le baladeur, mais le fichier était illisible sur le minuscule écran. « Il faudrait qu'on le branche sur un ordinateur », affirma-t-il. Il détacha sa ceinture et remonta dans le couloir de l'avion jusqu'à trouver un homme d'affaires qui pianotait sur son notebook. Il arriva à le convaincre de lui prêter son appareil et un câble pendant quelques minutes. De retour à sa place, il brancha l'iPod sur l'ordinateur portable. Il repéra le fichier PDF sur le bureau et cliqua pour l'ouvrir. Les premières photos étaient stupéfiantes. On y voyait la carcasse d'un monoplan à hélice noyé dans la végétation amazonienne. L'avion s'était manifestement écrasé en pleine jungle. Sébastien fit défiler les images. Sans doute pris avec un téléphone portable, les clichés n'étaient pas de très bonne qualité, mais suffisamment nets pour qu'ils reconnaissent le bimoteur à structure métallique comme étant un Douglas DC-3 équipé de turbopropulseurs. Enfant, il avait assemblé plusieurs maquettes du célèbre avion. Emblème de la Seconde Guerre mondiale, l'oiseau de fer avait marqué l'histoire de l'aviation. Il avait transporté des troupes sur tous les fronts, l'Indochine, l'Afrique du Nord, le Vietnam, avant d'être recyclé dans le civil. Robuste, rustique et facile d'entretien, il avait été produit à plus de 10 000 unités et continuait à voler en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Suite au crash, le nez de l'avion et l'aileron arrière étaient très endommagés. L'atterrissage forcé avait fait voler en éclats le pare-brise. Les ailes en porte-à-faux s'étaient fracassées et les pales des hélices étaient bloquées par un enchevêtrement de lianes. Seul le fuselage central, au flanc percé d'une grande porte à deux battants, était presque intact. La photo suivante était macabre. On y voyait les cadavres du pilote et du copilote. Leur combinaison était noire de sang et leur visage dans un état de décomposition avancée. Sébastien cliqua pour faire apparaître la suite. L'avion était en configuration cargo. À la place des sièges passagers, des caisses en bois étaient empilées les unes sur les autres et des coffres métalliques ouverts contenant des armes de gros calibre, des fusils d'assaut et des grenades. Mais surtout, une cargaison hallucinante de cocaïne. Des centaines de paquets rectangulaires recouverts de plastique transparent et de bandes adhésives. Combien en comptait-on? 400? 500 kilos? C'était difficile à estimer, mais la valeur du chargement devait s'élever à des dizaines de millions de dollars. Les images suivantes étaient encore plus explicites. L'auteur des clichés s'était photographié lui-même en tendant son téléphone à bout de bras. C'était un grand échalas d'une trentaine d'années, arborant une épaisse crinière de dreadlocks. L'euphorie se lisait sur son visage émacié, ruisselant de transpiration et dévoré par une barbe de plusieurs jours. Ses yeux étaient brillants, injectés de sang, ses pupilles dilatées. À l'évidence, il avait dû s'offrir plusieurs rails de cocaïne. Des écouteurs sur les oreilles, il portait un gros sac à dos et une gourde de campeur clipsée à la ceinture de son bermuda. Visiblement, il n'était pas tombé par hasard sur la carcasse de l'avion. « Notre décollage est imminent, monsieur. Veuillez attacher votre ceinture et éteindre votre ordinateur. » Sébastien leva les yeux et adressa un hochement de tête à l'hôtesse qui le rappelait à l'ordre. Dans l'urgence, il continua à faire défiler le document pour connaître la fin de l'histoire. Les dernières pages comprenaient une carte satellite de la forêt amazonienne, un relevé de coordonnées GPS ainsi que des indications détaillées et un itinéraire précis permettant de retrouver le bimoteur. Une véritable carte au trésor. « Voilà la fameuse carte qu'ils nous ont demandé d'apporter. C'est ça qu'ils recherchent depuis le début. » Nikki avait déjà compris. Pressée par le temps, elle sortit son téléphone et prit plusieurs clichés de l'écran d'ordinateur, l'avion, la carte, l'étrange bonhomme à la coiffure rasta. « Qu'est-ce que tu fais ?
Il faut que j'envoie ces informations à Constance. Elle parviendra peut-être à identifier les trafiquants. »
L'avion empruntait maintenant la voie de circulation pour rejoindre la piste.
Très remontée, l'hôtesse repassa à leur niveau et leur enjoignit d'un ton cassant d'éteindre leur téléphone.
Avant de s'exécuter, Nikki sélectionna rapidement les photos qu'elle venait de prendre et les envoya en pièces jointes via l'adresse de sa messagerie électronique. Au moment de compléter le champ du destinataire, elle profita de ce que Sébastien parlementait avec l'agent de bord pour ajouter à l'adresse électronique de Constance, celle de Lorenzo Santos.